Bienvenue RVE, il est 9h.
Merci de nous être fidèles donc pour ces deux heures d'antenne ce matin sur l'antenne d'RVE. On va naturellement dans Tribu Sport 9h-10h recevoir notre ami Carl Olive qui arrive d'un instant à l'autre. On l'aura également comme invité principal de la 100e émission de Tribune Foot. Alors invité exceptionnel, on voulait faire une émission exceptionnelle et on a décidé de faire cette émission ce matin dans les locaux de FectiFoot avec notre ami Yann Le Goff. Yann, bonjour.
Bonjour.
J'avais promis de venir faire une émission.
Oui, bonjour Philippe.
Oui, vous avez promis de venir faire une émission à FectiFoot. Voilà, on a dû le promettre. Donc on va recevoir dans un moment donc Carl Olive. Un petit mot quand même, bon, vous êtes venu deux fois à la radio. Un petit mot sur FectiFoot, ça va bien depuis l'ouverture de ce centre?
Écoutez, ça va de mieux en mieux. Vraiment, ça va de mieux en mieux. On a de plus en plus de joueurs, de plus en plus de familles, d'enfants, de pratiquants sportifs. Et on est ravis de vous accueillir ce matin.
Voilà, on fera un petit aussi bilan du Téléthon, puisque RVE a été très largement investi sur ce Téléthon. On vous a fait une couverture très large et très vaste pendant deux jours. On voudrait remercier d'abord tous ceux qui ont été généreux et solidaires à l'occasion de ce week-end de Téléthon. On n'a pas battu le record, 90 millions d'euros. C'est un peu en baisse par rapport à l'année dernière où c'était 95. On n'est pas au 102 d'il y a deux ans, mais on a quand même senti encore une forte mobilisation un peu partout. Et il y a même eu des endroits où on s'est encore beaucoup plus mobilisé que par le passé. Vous avez été partie prenante dans le Téléthon?
Oui, on a été partie prenante et on l'est encore parce que je vous rappelle que pendant une semaine, on peut encore appeler 36-37 et on peut encore dépasser les 95 millions. Donc j'incite tout le monde à appeler, à se mobiliser pour effectivement donner, je rappelle les quatre chiffres magiques, 36-37, et ce, encore jusqu'à une semaine sur le standard du Téléthon.
Alors, comme on a un peu de temps avant que Carl Olive arrive, et puis on va rentrer en contact avec notre ami Jacques Poligny pour l'Origol, c'est une épreuve de trail qui s'est déroulée en pleine nuit dans le cadre du Téléthon. On fera un petit peu le bilan de cette épreuve de nuit. Un petit mot sur la polémique qu'il y a eu concernant le Téléthon. Ça a eu des effets?
Je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a de plus en plus de gens qui donnent malgré tout aux diverses associations de manière globale, j'aurais envie de dire. Après, la répartition entre chacune d'entre elles, ça peut être l'objet pour ceux qui reçoivent moins, mais je pense que ce qui est important, c'est la générosité des Français. Et donc, je crois que c'est important de donner pour le Téléthon, pour le SIDAction et pour les autres aussi, les Restos du Cœur qui viennent d'ouvrir leur campagne. Mmh. Donc voilà, on ne peut qu'inciter les Français qui sont déjà très généreux à se mobiliser et à donner encore en fonction de leurs moyens, parce que 1, 2, 5, 10, 20 euros, mais il n'y a pas de petits dons. Il n'y a que des dons.
Voilà. Alors, je veux dire à mon ami Christophe de me mettre en contact avec Jacques Poligny. On va l'avoir donc d'ici quelques secondes. Un petit mot quand même sur Yann, sur ce qui a été dit. Est-ce que vous pensez que c'est à la base de tout le Téléthon, la lutte contre les maladies génétiques, ça aide aussi les autres causes?
Oui, je pense oui, je pense que ça aide. En plus, vous n'êtes pas sans savoir que je suis médecin aussi.
Voilà,
donc, non, tout à fait. Donc oui, ça aide. Il y a beaucoup de choses très très justes et professionnelles qui ont été dites là dernièrement sur les thérapies géniques, sur la recherche. Et donc, donner au Téléthon, ça sert aussi pour d'autres maladies que les maladies génétiques. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Et je crois que c'est assez transparent en termes de gestion et de comptabilité au niveau du Téléthon pour pouvoir donner les yeux fermés, j'ai envie de dire.
Donc les propos de Pierre Berger n'étaient pas adaptés, quoi?
À mon sens, non.
D'accord, ok. Je pense qu'on a notre ami Jacques Poligny en direct du Perrin-en-Yvelines. Jacques, bonjour.
Ouais, bonjour Philippe.
Alors, comment ça s'est passé, Jacques, donc pour cette épreuve de l'Origol, on a pu suivre le départ donc hier soir. Ça s'est passé comment d'une façon générale?
Beaucoup de casse, une course très dure, toutes les années, trouvée encore plus dure cette année, puisque là, on va être entre 35 et 40% de finishers. Donc, juste pour donner une idée, sur le 75, 320 inscrits, et on devrait arriver à 120, 130 arrivés.
Ouais, donc un pourcentage d'abandon beaucoup plus important.
Très important, ouais. Donc, je crois que c'est un petit peu la problématique, c'est que la course est très, très, très clinique, très dure, et de ce fait, beaucoup de coureurs qui viennent de province s'attendent pas à trouver ce type de terrain chez nous. Et de ce fait, on arrive à cette situation. C'est toujours un petit peu le petit souci qu'on a, c'est on voudrait qu'il y ait plus de finishers.
Oui. Alors est-ce que les conditions météo de cette année ont rendu peut-être cette course encore plus dure? On sait qu'il y avait beaucoup de vent, il y avait beaucoup d'appui, le terrain était particulièrement glissant, c'est ce qui explique en grosse partie qu'il y a eu plus d'abandon que les années précédentes?
Ouais, bien sûr, c'est l'accumulation de tous ces petits facteurs, les conditions météorologiques, donc la pluie, le vent, on a actuellement que 30 coureurs d'arrivée sur les 130 qui sont encore sur le circuit, donc on a des grosses trompes d'eau, je pense que vous devez avoir chez vous, il y avait du vent sur les hauteurs, et puis des chemins qui sont bien trempés, avec des rigoles bien remplies, et puis des sentiers qui sont couvertes de feuilles avec des branches d'arbres et qui rentrent, donc tout ceci glisse encore. Donc c'est une année où direct nos secouristes et notre docteur ont pas fermé l'œil de la nuit.
Oui. Donc effectivement le classement, alors on le connaît, il y avait un Belge et deux Américains, est-ce que
là c'est aussi une surprise puisque Wouter Hamelin qui était venu ici donc avec des ambitions termine très loin au classement, là il est arrivé, il doit être 20e. Il a complètement explosé dans la troisième boucle. Par contre Sébastien Lefebvre donc a été fidèle, donc c'est lui qui a gagné. Donc pour donner une indication par rapport à l'année dernière, on peut pas faire de parallèle par rapport à 2008 puisque le parcours est pas le même, la distance est la même, le dénivelé est, il y a un petit peu plus de dénivelé. L'année dernière ça s'est gagné en 7h54 et cette année ça s'est gagné en 8h08 et entre le premier aujourd'hui et le 30e, donc il y a pratiquement pour le moment pratiquement 3 heures d'écart, quoi. Le 30e a mis 3 heures de plus que le premier. Donc, pour donner un petit peu le niveau de difficulté de la course.
Oui, on va rappeler qu'il y a un temps imparti, Jacques, donc on peut arriver jusqu'à quelle heure encore?
On peut arriver, on a rallongé un petit peu les barrières horaires, donc là il y a 13h30 de course, donc jusqu'à 11h30, donc la dernière arrivée. Et puis pour terminer, donc tu parlais des Américains, donc un Américain donc qui a abandonné sur blessure, et puis le deuxième, donc il y a 21 ans, qui est arrivé avec un gabarit plutôt de footballeur américain, notre grande surprise, il termine dans les 15 premiers.
Donc effectivement beaucoup de casse. Est-ce que c'est parce que aussi les favoris ont peut-être un peu mésestimé cette épreuve, ils n'ont pas suffisamment écouté les recommandations?
Non, je pense pas. Les favoris, ils connaissent un petit peu ce type de parcours. Bon, ils consultent les forums et quand on annonce attention sentier glissant, quand on annonce 2000 mètres de dénivelé, la première chose qu'ils font, c'est de s'assurer où est-ce qu'ils peuvent trouver 2000 mètres de dénivelé. Donc, ils vont regarder, ils consultent les cartes et puis ils comprennent assez vite. Et de ce fait, non, je pense pas. Enfin, je crois que c'est une accumulation de plein de petits facteurs qui font que la première boucle ils l'ont trouvé très dure, la deuxième boucle encore plus dure, et quand ils arrivent ils sont cuits, quoi. Donc on a vu à l'arrivée de la deuxième boucle Sylvain Lefebvre était ex aequo avec Jean-Jacques Blum, et Jean-Jacques Blum a dit non j'arrête, je continue plus, quoi. Il avait vraiment pourtant il lui restait 20 km à faire et les plus faciles. Donc c'est pour montrer que même au niveau des favoris, ils étaient bien, je peux vous assurer, moi je l'ai vu, ils étaient bien, il n'y avait pas de problème, il a dit mais non, c'est vraiment... On a tous les qualificatifs, c'est plus dur que la CCC, donc la course du Mont Blanc, qui fait Chamonix, Courmayeur Chamonix, nous qui nous disent on a fait un 115 km, c'est encore plus dur, enfin on a tout, quoi. Donc et ce qui est surprenant, c'est que on a la première féminine, donc qui est une Suissesse, Donc il est arrivé en 10h30. Bon, elle a adoré. Elle a dit mais moi j'ai fait des trucs en Suisse et l'âge que vous avez là, c'est génial quoi. C'est différent, mais c'est très technique. Il y a de tout et on n'a pas le temps de se reposer. Il faut relancer en permanence. C'est un terrain de jeu superbe.
Oui, alors Jacques, on a eu l'occasion de voir et de vivre le départ ensemble. C'est assez phénoménal de concentration de la part de ces trailers. Ils sont déjà bien avant donc le départ dans leur course.
Excuse-moi Philippe, j'ai eu beaucoup de bruit ambiant, donc j'ai pas compris ta question.
Simplement pour dire qu'on a eu l'occasion de vivre le départ ensemble, et ce qui est quand même assez déconcertant et sidérant, c'est qu'ils sont déjà dans leur course bien avant le
départ. Bien avant le départ, oui, complètement. Ça c'est clair. Et bon, je sais pas si tu as vu, on a donné le départ très rapidement pour bon, les problèmes de sécurité bien sûr, et puis pour les soulager, parce que bon, ils sont venus là, ils savent que la nuit va être longue, bon, puis les faire patienter au départ avec le froid et tout, donc... oui, non, c'est vrai. Ils étaient tous bien concentrés. Bon, et puis c'était beau de voir partir 500 coureurs comme ça, du centre du Perret, la frontale sur le front. C'était très beau.
Il y a une boule au ventre avant le départ parce qu'on sait qu'on va passer un sale moment. Quoi.
Complètement. Oui. Bah, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a des coureurs qui reviennent pour la quatrième année. Ils nous ont dit, mais à chaque fois, on a vécu autre chose. À chaque fois, on a vécu autre chose. Bon, par contre, aujourd'hui, tous ceux qui ont fait des éditions précédentes, bon, nous ont dit, là, cette année, vous avez mis le niveau de difficulté très haut. Donc, on l'a peut-être mis trop haut parce que je pense que vu le niveau, le pourcentage d'abandon, on va être amené à réfléchir parce qu'on n'est pas là non plus pour faire comme ça a été écrit dans un magazine spécialisé, la course la tueuse de finisher la plus dure de France. Quoi. Donc aujourd'hui, on a cette étiquette-là. Quoi. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de courses en France où il y a 70% d'abandon. Quoi.
Alors, Jacques, il y aura une édition 2010, hein, je sais que c'est pour parler.
Je voudrais bien, Philippe, mais bon, tu connais un petit peu, donc tu as vu un petit peu les recommandations que j'ai données au départ, les informations, donc le souhait de l'organisation, oui, d'organiser l'édition 2010, oui. Maintenant, on va essayer de se rapprocher des différentes autorités compétentes, voir avec elles quel compromis on peut trouver pour essayer de faire en sorte que cette course de l'Origol perde. Là, pour le moment, j'ai un courrier officiel qui me dit que 2010, c'est fini. Quoi. Donc, et bon, tu sais que nous sommes des personnes qui ne renonçons pas comme ça facilement. Et bon, je pense qu'on peut arriver à essayer de trouver des terrains d'entente. Après, est-ce que ça sera un Origol de jour? Est-ce que ça sera un Origol raccourci? Est-ce que ça sera un Origol sous une autre forme? Je ne sais pas encore. Ça fera partie un petit peu des différents sujets de réflexion que l'on aura, mais c'est clair que les coureurs nous le disent, donc on le voit, on fait un petit sondage, ils disent mais n'arrêtez pas, je dis oui, mais nous on veut pas arrêter. Hein.
Alors un petit mot quand même sur le Téléthon, je sais que...
Alors bah, voilà, donc notre épreuve était organisée dans le cadre du Téléthon, donc le fait que nous ayons un nombre important de participants va faire que nous pourrons reverser une somme beaucoup plus importante au Téléthon. Donc là, aujourd'hui, je ne sais pas vous répondre à l'instant T, puisque bon, au niveau financier, donc il faut que on épure nos comptes, qu'on règle un petit peu toutes nos dépenses pour voir un petit peu le résultat de l'opération. Et puis à partir de là, ce qui est déjà sûr et certain, c'est que ça sera au moins le double de ce qu'on a reversé l'année dernière, bon, indépendamment de ce qui aura pu être collecté dans les urnes qui étaient mises en place au gymnase. Donc là, tout ça, bon, je pense qu'on aura des chiffres dans la semaine. Aujourd'hui, je ne sais pas répondre, mais ce qui est sûr, c'est que bon, on sera loin de nos records précédents lorsqu'on a été dédié avec toute une très lourde organisation sur le Téléthon. On l'a fait le Origol qui était le point et le fil rouge, hein, pour reprendre des termes bien connus du Téléthon. Alors c'est vrai que je pense que pour moi c'est une autre façon, hein, je dirais. Alors c'est vrai qu'il y a le Téléthon, c'est ce que l'on va récolter, les dons qu'on va récolter pour faire avancer la recherche. Et puis c'est aussi de montrer aussi, donc ça c'est une première chose, et puis ben, nous, des sportifs en bonne santé, donc tous les gens qui sont venus là, donc, tu as pu voir quand on a annoncé que la course était organisée dans le Téléthon, donc ça a été un accueil unanime de tous les coureurs. Et je crois que on est tous là, on peut mettre le muscle et l'effort au service du muscle. Donc il y a des efforts physiques, donc ça c'est la première des contributions. Et puis la deuxième, c'est la contribution financière. Alors certes, elle n'est pas toujours aussi importante qu'on le souhaiterait, mais bon, ça, c'est à nous aussi à travailler pour essayer d'optimiser nos dépenses pour qu'on puisse reverser plus. Donc c'est sur ce sujet-là que j'essaye de travailler de plus en plus. Et bon, si 2010 ne donne pas l'occasion de refaire le rigole, on trouvera autre chose.
Là, sur le plan national, il y a eu une petite baisse. Jacques, vous en pensez quoi? 90 millions d'euros.
Excuse-moi, j'ai pas entendu.
Il y a eu une petite baisse cette année par rapport à l'année dernière et par rapport à
l'année dernière. Je sais pas, j'ai pas eu le temps de suivre, Philippe. J'ai pas eu le.
90 millions d'euros. 90.
90, donc c'est quoi? C'est 10% de moins que l'année dernière?
Ouais, il y avait 95 l'année dernière et le record est à 102 il y a deux ans.
Ouais, donc 95 l'année dernière, 90, bon, ben, je pense qu'avec toute la campagne de désinformation dont on a eu l'occasion de parler la semaine dernière, bon, qu'on les approuve tous, bon, nous, bénévoles, je dirais, pour le Téléthon, bon, on peut considérer que c'est quand même un succès dans la conjoncture économique et de crise économique que nous connaissons. Bon, 90 millions, 95, c'est 5%. Bon, la bourse a perdu beaucoup plus, je crois, sur la même période.
Bien. Merci Jacques, en tout cas, de nous avoir accordé ce petit quart d'heure d'interview, d'être revenu donc sur un des temps forts de ce week-end de Téléthon qu'on vous a fait vivre sur l'antenne.
Merci Philippe, merci RVE et puis à bientôt.
Voilà, merci. Ok, allez, on va envoyer donc la pub avec notre ami donc Christophe, la pub, l'éphéméride et puis tout ce qui s'ensuit. Et puis on se retrouve d'ici quelques minutes, hein, dans 4-5 minutes, en compagnie de Carl Olive. Allez, la pub.
La radio de la différence.
Le Marquis de Pombal, bar, brasserie, restaurant, vous accueille avec ses menus franco-portugais et sa nouvelle carte gastronomique. Avec la baisse de la TVA, nouveaux tarifs au Marquis de Pombal. Menu du midi du lundi au vendredi à 9,80€. Pour vos mariages, baptêmes, anniversaires, repas de famille ou autres, le Marquis de Pombal vous propose 3 salles climatisées et modulables. Le Marquis de Pombal est ouvert tous les midis et en soirée le vendredi et le samedi. Fermeture le dimanche. Profitez également de sa superbe terrasse d'été pour les beaux jours. Possibilité de plats et menus à emporter. Réservation au 01 34 83 02 45. Vous vendez, louez et voulez en savoir plus sur votre bien? Abexim, votre diagnostic immobilier. Réalisation d'expertise et diagnostic immobilier, tarif réduit dès la deuxième réalisation de diagnostic. Cabinet indépendant et expert membre de l'Institut de l'expertise. Performance énergétique, état de surface, loi carrée, présence d'amiante et tout diagnostic réglementaire. Avec Abexim, vous bénéficiez de rapports de diagnostic sous 24 heures. Sous 24 heures. Devis gratuit sur simple appel, contactez-nous sur notre site internet www.abexim.fr ou 01 30 59 86 80. Abexim, votre diagnostic immobilier, 8 route de Saint-Benoît à Vieille-Église.
À l'espace Rambouillet, venez découvrir cerfs, biches, chevreuils, daims, aurochs et sangliers en liberté sur 250 hectares de nature. Plus de 100 rapaces vivent dans la forêt des Aigles. Démonstration de vol tous les jours de mars à novembre. L'espace Rambouillet organise des sorties groupes scolaires et des visites guidées. Espace Rambouillet, route de Clairefontaine, renseignements au 01 34 83 05 00. L'espace Rambouillet, l'aventure grandeur nature.
La Grange Bio, votre épicerie de produits biologiques, écologiques et naturels. Fruits et légumes, crèmeries surgelées, pain, épicerie, compléments alimentaires, produits cosmétiques et d'entretien et son rayon sans gluten. La Grange Bio, la garantie de qualité avec des produits de grande marque. Animation, mini-conférence régulièrement et présence de la naturopathe Florence Cariou, naturopathe iridologue. Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 13h30 et de 15h à 19h30, sauf le samedi, fermeture à 18h30. La Grange Bio, 109 rue du Général de Gaulle, à Rambouillet, au passage Fleury, 01 30 88 21 32.
Kiss. Météo.
Météo. Bonjour, le temps pour ce matin, selon les informations de Météo France, eh bien, un ciel nuageux avec quelques averses, de la pluie éparse. Les températures sont aux alentours de 10 degrés dans l'après-midi. Les températures monteront à 12 degrés et le temps restera couvert avec de nombreuses averses.
Retrouvez la prévision météo
sur le serveur de Météo France au 3250.
Horoscope.
Bonjour, nous sommes le 6 décembre, voyons ce que les astres nous réservent pour aujourd'hui. Les béliers, vous êtes à l'affût d'une affaire qui pourrait vous rapporter gros. Les taureaux, votre opinion très personnelle sur un sujet épineux pourrait choquer une personne sensible. Les gémeaux, n'hésitez pas à utiliser votre pouvoir de persuasion pour obtenir ce que vous voulez, même s'il s'agit d'une personne importante. Les cancers, c'est le moment idéal pour demander une faveur car on sera à votre égard dans de bonnes dispositions. Les lions, vous pensez sans doute à tort que vous possédez une grande influence sur quelqu'un de très important pour vous. Les vierges, vous allez devoir faire face pour résister à une intrusion dans votre vie. Vous vous en tirerez par une pirouette. Les balances, il y a des moments dans la vie où il faut faire des choix, et c'est aujourd'hui le cas. Les scorpions, nul doute que vous parviendrez relativement facilement à vous imposer malgré les réticences répétées de quelqu'un qui pourtant vous aime bien. Les sagittaires, le moral aidant, vous arrivez à convaincre de vos capacités à gérer une situation qui se présentait plutôt mal que bien. Les capricornes, de réelles possibilités se présentent à vous aujourd'hui, ce n'est pas le moment de reculer. Les verseaux, les forces de la chance vous apportent une énergie nouvelle qui vous propulse vers une certaine réussite. Les poissons, des contrariétés auraient pu survenir dans votre environnement proche, mais une réelle opportunité viendra perturber une personne qui cherche à vous nuire. Sur ce, les astres vous souhaitent une excellente journée.
Éphéméride sur RVE. Les éphémérides vous sont présentés par le San Lazzaro, restaurant italien à Rambouillet.
Bonjour, aujourd'hui nous sommes le 6 décembre et c'est la Saint-Nicolas. Très bonne fête à vous. La citation du jour est de Victor Hugo, l'instinct c'est l'âme à quatre pattes, la pensée c'est l'esprit debout. Ça s'est passé un 6 décembre. En 1986, une manifestation étudiante rassemblant près de 30 000 personnes dégénère en affrontement violent dans le quartier latin de Paris. Les émeutes font un mort et des dizaines de blessés. En 1998, des astronautes réussissent à assembler en orbite les deux premiers éléments de la future station spatiale internationale, l'ISS. Et en 1998 également, le sculpteur César, de son vrai nom César Baldaccini, célèbre pour ses compressions, est décédé des suites d'un cancer à 77 ans. Né le 1er janvier 1921 à Marseille, il était notamment le concepteur des statuettes remises depuis 1976 à la cérémonie des Césars, récompense cinématographique suprême en France, équivalente des Oscars aux États-Unis. On passe aux anniversaires maintenant. Si c'est le vôtre aujourd'hui, je vous souhaite un très très bon anniversaire. En 1929, c'est la naissance de Philippe Bouvard. En 1956, la naissance de Peter Buck, le guitariste de REM. Et en 1958, la naissance de Nick Park, réalisateur de films d'animation et créateur de Wallace et Gromit. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée.
Bonne fête à tous avec le San Lazzaro.
RVE.
La différence.
Oui, donc depuis Festi Foot en compagnie de notre invité exceptionnel ce matin, Carl Olive. Carl, bonjour.
Bonjour Philippe.
Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation en ce lieu magique pour le foot.
Bah d'abord merci de m'avoir invité. Puis c'est vrai qu'on est très très bien accueillis ici à Festi Foot. Puis je suis très heureux de participer à votre émission parce que j'en entends parler.
Très bien, c'est très gentil. Alors Carl, d'abord en préparant cette émission, je me suis dit, mais comment il a le temps de tout faire? Journaliste, chef d'entreprise, homme politique, responsable d'association, comment on arrive à tout faire?
Organisation et gestion du temps, Philippe. Et puis je crois que dans la vie, il faut vivre de sa vie. Moi, j'ai toujours une belle formule qui est de dire acteur de sa vie plutôt que spectateur de celle des autres. Alors voilà, aujourd'hui, j'ai plusieurs activités dans des activités complètement diversifiées, vous l'avez dit, dans le monde du sport, dans le monde de l'entreprise, de la communication, dans la restauration. Mais voilà, ça me plaît. Voilà, je crois que la vie a plein dedans.
D'accord. Alors, on va remonter votre amour pour le sport. Comment le sport entre-t-il, Carl, dans votre vie? Comment c'est arrivé cette passion pour le sport?
Je dirais dès le 29 mars 1969, un jour de ma naissance, parce qu'on est une famille nombreuse. On était une famille nombreuse chez nous. On était 8. Malheureusement, j'ai perdu un frère à qui je pense. On était 5 garçons et une fille, et on était tous footballeurs. Voilà.
D'accord.
Donc de fil en aiguille, il y a une mobilité sociale qui s'est produite comme cela, et on a toujours été élevé au biberon du ballon rond. Et à partir de là, bah, ça forge, comme on le dit, hein, le football, le sport en général, c'est une école de la vie. Et c'est vraiment une école de la vie. C'est-à-dire que ça forge des valeurs de solidarité, de responsabilité, de compétiteur, de rigueur, de discipline. Et encore aujourd'hui, je ne pourrais pas me passer de faire du sport presque tous les jours, y compris ces activités qui sont les miennes.
Donc vous avez fait partie des équipes de jeunes du PSG et vos fils en font aussi partie, c'est ça ?
Je suis né à Saint-Germain-en-Laye, Philippe. J'ai joué au foot à Saint-Germain-en-Laye. J'étais arbitre pour le Paris Saint-Germain. J'étais dirigeant avec Michel Denisot, enfin autour de Michel Denisot. Et effectivement, mes deux garçons jouent aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Alors il y en a le plus jeune, Hugo, avec Yann Le Goff, là, dans FestiFoot, s'amuse dans les installations. Et puis mon grand Quentin est actuellement à Sheffield en Angleterre parce qu'il fait un sport-études foot. Il est parti 4 semaines s'immerger pour aussi parfaire son anglais.
Le PSG, c'est votre club de cœur. Donc on nous dit, même si on est journaliste, on n'a pas le droit d'avoir de club préféré.
Bah, comme je le dis, j'ai un peu de sang du PSG qui coule, ouais. Qui coule dans mes veines parce que alors c'est un club que j'aime. Maintenant, je suis footballeur, hein, et comme je dis, j'aime le beau jeu. Donc par exemple, j'aime aussi Marseille. Ça, quand on dit qu'on est de Saint-Germain-en-Laye et qu'on aime Marseille, ça dissonne. Mais l'année dernière, par exemple, j'ai fait un bouquin sur Guéret parce que j'adore le personnage. Mais voilà, j'aime le jeu.
Alors Karl, on y reviendra, mais on avait parlé peut-être de vous comme président délégué du PSG. Est-ce que c'était des bonnes infos? Est-ce que c'était de l'intox?
Non, c'était pas de l'intox. Bon, c'est quelque chose qui cheminé dans mon esprit. J'étais président du club de football de Chatou, puis ensuite du club de l'AS Poissy en CFA. Vous savez, je suis, c'est un secret pour personne, mais proche de Michel Denisot. Mais je dirais surtout aussi proche du Paris Saint-Germain. Et proche du Paris Saint-Germain, ça signifie quoi? Ça signifie qu'au Paris Saint-Germain, c'est vrai qu'on parle de la structure professionnelle, mais il faut quand même savoir qu'il y a près de 1000 amateurs qui jouent au stade Georges Lefebvre dans les installations du Camp des Loges. Et il y a un vrai lien, je crois, légitime quand on a été footballeur chez les jeunes, quand on a été arbitre officiel de la fédération, quand on a été ensuite, à mon humble niveau, directeur de la rédaction de Canal+, en lien direct avec le Paris Saint-Germain. Alors oui, ça faisait partie des hypothèses. Bon, il y a un autre choix qui s'est effectué, mais ça n'enlève en rien et ma passion et mon amour pour le club.
Et peut-être un jour, président d'un club de foot, hein, il y a beaucoup de journalistes qui y arrivent, donc pourquoi pas vous ?
Bon, moi j'ai fait Chatou, j'ai fait Poissy, j'ai eu des sollicitations. Je suis aujourd'hui conseiller en communication du club de football, très intéressant d'ailleurs, de Dijon en Ligue 2. Qui est un vrai.
Avec
Noël Tosi, exactement. Qui est un sacré personnage également, qui est le club dirigé par Monsieur Nieki. Et c'est vrai que directement ou indirectement, j'ai toujours une petite part et j'essaie de mettre ma pierre à l'édifice dans le monde du ballon rond.
D'accord. Donc Karl, c'est le sport qui vous a emmené au journalisme.
Disons que, et là c'est marrant ce que vous me dites Philippe, parce que je prépare un livre actuellement sur l'emploi des jeunes. Je crois que dans la vie, il faut toujours croire que le plus beau reste à venir. Moi j'ai toujours voulu faire de la télévision. Faire de la télévision, j'y suis parvenu par les jeux télé par exemple.
Ah d'accord.
C'est aussi surprenant que ça puisse paraître. J'ai fait des études de communication et des études de sciences politiques, mais si aujourd'hui je suis journaliste et à Canal+, et dans divers, on en reparlera tout à l'heure certainement Philippe, mais je crois que c'est parce que j'ai toujours voulu donner, être généreux, c'est un espèce de don de soi, et parce que j'aime les gens. Je crois que quand on veut faire ça, il faut aimer les gens, il n'y a pas à sortir.
C'est le conseil qu'on peut donner aux jeunes, c'est d'aimer les gens, hein, quand on fait de la radio, de la télé, et d'y croire.
Aimer les gens et y croire toujours, même quand c'est difficile. Comme je dis, quand on fait ce métier-là, c'est l'actualité qui nous dirige, c'est pas l'inverse. Quand vous faites une émission le dimanche matin à 9h, on ne peut pas vous dire « Ah bah non, je suis à RTT ». Ça, c'est pas possible.
C'est bon. Donc, effectivement, la télé, vous y commencez, il y a une première.
C'était formidable parce que...
Un peu comme nous, la proximité.
Exactement.
Quoi.
Ah oui. Le pilier d'Yveline Première, c'était miroir et service. Miroir, montrer ce que font les gens, service, améliorer leur quotidien. Alors Yveline Première, c'est fabuleux. Petite anecdote, en novembre 1989, je suis responsable des candidats sur un jeu télé qui s'appelle Chercher la France à Lille, en compagnie d'un jeune prometteur qui s'appelait Vincent Perrault et Pierre Bonte, personnage identifié. Et l'invité de cette émission est M. Michel Péricard. Je suis né à Saint-Germain-en-Laye, Michel Péricard me tombe dessus, entre guillemets, en me disant, mais qu'est-ce que tu fais là? Je lui dis, vous, M. Péricard, qu'est-ce que vous faites là? Et il me dit, je suis invité de l'émission. Et toute la journée, je me suis occupé de Michel Péricard, entre guillemets. Et le soir, il me dit, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je lui dis, moi, j'aimerais bien faire de la télé. Et il me dit, écoute, dans un mois, j'ouvre une télévision à Saint-Germain-en-Laye. Première chose qu'il me dit, tu ne seras pas beaucoup payé, mais tu feras ce que tu voudras. Et un mois plus tard, je faisais le premier journal des sports d'Yveline Première, en décembre 89, le 18 décembre, avec Claude Lefebvre comme directeur. Et 4 ans plus tard, j'en devenais le directeur.
Oui, ça a été, vous avez été un des pionniers au niveau des télés locales à travers Yveline Première. Hein. Au début des télés locales.
ça a été l'une des premières. C'est une télévision locale de proximité, c'est-à-dire qu'au départ, c'était prévu pour 15 minutes, Philippe, et puis Michel Péricard avait encore une fois pensé, vraiment, avait eu cette image de visionnaire en disant, attention, on fait une télé de proximité avec des gens de proximité. Pourquoi ? Un, d'abord, on fait travailler les gens du local, et deux, on va gagner du temps. Parce que quand il faut aller à l'aérodrome d'Elancourt, par exemple, ben on va savoir où c'est. Et on va pas mettre 10 heures pour pouvoir le trouver. Et ensuite, on va émerger les contrats de qualification. Parce qu'on va donner du travail aux gens, pour des gens qui ne sont pas forcément formés. Mais on va les former via le CFPJ, Centre de formation et de perfectionnement des journalistes. Et cette télévision qui était à l'époque la moins chère de France, 4 millions de francs à l'époque, et qui l'est encore aujourd'hui, qui doit tourner autour de 700 000 euros ou quelque chose comme ça, et ben voilà, elle est toujours là parce que, au départ, les fondations étaient très scellées et très rigoureuses par rapport à cela.
Vous y allez encore de temps d'autre ? Vous y allez encore de temps d'autre ?
Alors j'ai été invité au mois d'octobre dernier, donc il y a deux mois pour le 20e anniversaire d'Yveline Première. J'y ai toujours un regard forcément attendrissant pour la bonne et simple raison que on connaît la fébrilité des schémas économiques tels que ceux des associations. Donc il y a toujours le souci du nerf de la guerre, le souci des deniers et on est en pleine aussi mutation, donc je pense que s'il faut aider Yveline Première, il faut aider Yveline Première. Et moi, je suis prêt effectivement à, non pas sauver, parce que c'est pas le mot, mais à penser voilà, la mutation nécessaire d'Yveline Première dans le contexte économique, social et entrepreneurial qui est le nôtre aujourd'hui.
Alors après, il y a l'arrivée à Canal+. Ça s'est fait comment, c'est arrivé ?
Bah là encore, je crois que dans la vie, il y a une chose qui prime au travers du temps, c'est le travail, Philippe. Hein. C'est travail, comme je dis, le travail entraîne le talent entraîne la chance et la réussite. Canal+, c'est une rencontre avec un homme hein, qui était mon idole déjà quand j'étais gamin, qui était Michel Denisot. Et le jour où j'ai vu Michel Denisot à Saint-Germain-en-Laye, je suis allé le voir en lui disant ben voilà, moi, il y a un truc que je sais faire, c'est jouer au football, Monsieur Denisot. Il y a un truc que je veux, c'est travailler à vos côtés. Et il se trouve que Michel Denisot, à l'époque où il est président du Paris Saint-Germain, entre 1991 et 1998, a une idée super, comme il en a encore aujourd'hui, on voit la réussite du Grand Journal. Il organise le matin des matchs de Coupe d'Europe, parce qu'à l'époque le PSG était régulièrement qualifié en Coupe d'Europe, des matchs entre dirigeants et sélection des journalistes.
D'accord.
Parce qu'il y a souvent des journalistes en déplacement. Mm-hmm. Bon, il se trouve que moi j'avais pas de mérite, mais je jouais au football, j'étais en équipe de France Corpo avec un de mes amis qui s'appelait Marc-Olivier Taclard, qui était mon caméraman à l'époque. Et le matin des matchs, alors on s'est retrouvé à jouer au foot à Vaduz, au Liechtenstein, à Liverpool en Angleterre, et Michel Denisot m'a dit disons tu sais jouer, etc. Est-ce que tu veux être homme de terrain ? Et je suis devenu homme de terrain en 1998 à la pige. J'ai été embauché en 2000, 2001 responsable du planning et 2002 directeur des sports. Parce qu'il y a une confiance qui s'est instaurée entre nous. Et puis, bon, si je peux me permettre, un petit peu de compétence, hein, voilà. Et puis, il y a toujours eu une relation très privilégiée avec Michel Denisot, qui est devant l'écran comme il en dort. Et ça, c'est quand même exceptionnel.
Ouais, c'est un homme qui sait tout faire à la télévision. Les journaux télévisés, le sport, les variétés, le divertissement, homme très très polyvalent. Hein.
Homme polyvalent, homme incontournable, homme compétent, homme professionnel et surtout un homme qui est fidèle en amitié. Et ça, il faut quand même le dire, on en trouve peu, y compris quand ça va pas forcément bien. Et surtout, il y avait un leitmotiv avec Michel qui était de dire, voilà, aujourd'hui Karl, t'es directeur de la rédaction, je suis le patron du service des sports, désormais mes décisions, moi Michel Denisot, sont tes décisions, toi Karl Olive. Et de la même manière, mes décisions, moi Karl Olive, étaient celles de Michel Denisot. Et à partir de là, c'était un pacte très épais qui permettait vraiment de faire en sorte que la rédaction de Canal+ soit un coffre-fort.
Et vous êtes quand même tombé à la mauvaise époque Canal. C'était le début d'une petite crise financière.
Je suis pas tombé à la mauvaise époque Canal, Philippe.
Oui.
Disons que Canal a vécu à partir des années 2000. Vous avez complètement raison. Des années très difficiles, eu égard au contexte économique. Et Canal était plus seul dans l'univers. En revanche, quand vous êtes un jeune mec qui travaille dans une télévision locale à Yveline Première et qu'on vous dit du jour au lendemain désormais c'est Canal+, alors pour moi c'était non seulement ça n'a pas été une mauvaise période, mais ça a été une période exceptionnelle parce que du jour au lendemain j'allais travailler et je travaillais avec du foie gras tous les jours au déjeuner. Alors c'est vrai que pour Canal+, qui avait mangé du caviar pendant 15 ans, passer au foie gras, ça avait un goût différent. Mais pour moi, ça a été exceptionnel. Et Canal+, encore aujourd'hui, et même si j'y suis plus, c'est une boîte exceptionnelle. Il y a un endroit où il faut être quand on veut faire du sport, c'est Canal+.
C'est sûr.
Et nulle part ailleurs.
Mm-hmm. Alors, ensuite, les ITD.
Ouais, ensuite c'est télé. Alors bah, il se trouve que dans la vie est faite de cycles, hein, Philippe. 2002 jusqu'à 2005, je suis directeur des sports. Et puis Alexandre Bompard vient prendre la succession de Michel Denisot. Il me dit que je ne rentre pas, et c'est normal, dans son organisation. Il vient avec son équipe. Mais Alexandre Bompard me dit, si tu prends les sports à télé et en plus le développement de PSG TV, parce que c'était oui, le cas, voilà, on sera en pleine confiance et on aura une vraie passerelle. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai des super relations avec Alexandre Bompard qui est brillantissime, qui est un chef d'entreprise exceptionnel. Il est à la tête d'Europe 1, je vous le rappelle. Et 6 mois après, Alexandre m'a proposé de revenir travailler avec lui. Alors en fait, l'aventure a duré 2 ans à ITélé au service des sports, qui a été super aussi, 2 superbes années, parce qu'à ITélé, c'est encore un endroit, bah tiens, peut-être comme à RVE, où on peut faire de la création. C'est-à-dire que vous avez une idée, vous la mettez en place, et ça n'a pas de prix dans le métier, vous le savez, Philippe. Donc ça a duré 2 ans, c'est 2 superbes années, où on a créé notamment une émission qui s'appelait N'ayons pas peur du foot, qui était une quotidienne le soir très tard, notamment après les matchs de coupe du monde. On a fait 35 émissions sans discontinuer, donc tous les jours. Et puis ça a donné des petites idées, parce qu'après ITélé, il y a eu l'aventure à Cap 24 où j'ai fait Cap Foot, oui. Et puis sur le même format d'émission. Et puis aujourd'hui, je suis producteur d'une émission que je présente ce soir, notamment oui, à 19h sur l'équipe TV, qui s'appelle le foot du dimanche, dans le même contexte. Alors comme je vous dis, on ne peut pas dire de quoi sera fait le lendemain, personne. Ce que je sais, c'est que moi, je ne suis pas carriériste, et que si demain je prends mon pied ou j'ai une opportunité pour faire quelque chose dans lequel je m'épanouis, où je peux faire épanouir quelques-uns de jeunes prometteurs, etc., alors là, je fonce.
Et alors justement, vous consacrez beaucoup au foot amateur, hein, dans vos émissions Cap 24 et puis l'équipe TV, il y a une grosse part réservée au foot amateur. Ça, vous y tenez, Karl, hein ?
Bah oui, parce que d'abord, je viens du football amateur. Je joue toujours, je joue avec les hospitaliers, mes amis de Poissy, en foot d'entreprise. Ensuite, je crois au foot amateur. Pourquoi ? Le foot amateur, Philippe, en France, c'est 2 600 000 licenciés. 2 600 000 licenciés. Il n'y a pas une seule émission de télévision qui est consacrée au football amateur. Alors quand j'ai rencontré les dirigeants, Xavier Spinder, le directeur général de l'équipe TV, et puis François Morinière, le PDG, je leur ai dit, voilà, les gars, il faut sauter là-dessus, parce que ça n'existait pas. Profiter du fait que l'équipe TV soit encore une fenêtre de création pour mettre ça en place. Alors je dirais qu'aujourd'hui, voilà, tous les dimanches à 19h en direct pendant 52 minutes, c'est Max Meunier, les routiers sont sympas. Parce que moi, je ne veux pas chercher la polémique. Je préfère avoir quelqu'un qui vienne me parler, tiens, la formidable épopée de Coupe de France de nos amis de Montigny, ou les filles du football féminin de Montigny, ou un exploit de Rambouillet par exemple, plutôt que d'aller parler des chiens écrasés. Là pour le coup, ça m'intéresse pas. Je veux positiver. Il y a tellement de choses qui sont positives, voilà, et un lien social dans le football, c'est cela qu'il faut mettre en exergue.
C'est le risque aujourd'hui avec tous les médias qu'il y a, internet, toutes les radios, toutes les télés, que finalement on connaît tout de tout le monde, et parfois on sort un peu des angles.
Vous avez complètement raison, parce qu'aujourd'hui quand on regarde, Philippe, vous voulez avoir le résultat par exemple de la 4e division du football français, c'est-à-dire la CFA. La CFA, vous avez dans le Parisien, le lundi matin, et c'est presque tout. Donc aujourd'hui, moi je fais la promesse de dire tous les dimanches soirs à 19h, vous avez tous les résultats sur les 4 groupes de CFA A, B, C, D, les 8 groupes de CFA 2 A, B, C, D, E, F, G, H, et puis également le foot féminin, dont on parle pas beaucoup et c'est bien dommage, et puis le championnat national. C'est une belle promesse. On a, et en plus, des gens qui nous appellent, voilà, comme vos auditeurs, qui nous appellent en direct, et la Bayless prend bien.
Alors en parallèle, vous avez KO Production en 2000. C'était l'envie de se diversifier ?
Non, c'était pas l'envie de se diversifier, Philippe. C'était simplement la nécessité d'avoir une coiffe juridique qui me permette de faire à la fois des animations, de l'écriture d'ouvrages, de répondre aux sollicitations pour donner des cours, parce que je donne aussi des cours de communication, de prise de parole en public, de réseau, etc. Donc, KO Production, aujourd'hui, je suis salarié de nulle part. Simplement de KO Production, et KO Production tisse sa toile d'araignée. Alors, dans le domaine de la production, pour par exemple l'équipe TV, dans le domaine des coupes, des cours de communication, de prise de parole en public aux entraîneurs de foot au chômage, aux hommes politiques, dans le domaine du conseil en communication, c'est le cas au club de foot de Dijon, et puis avec la Française des Jeux, j'ai un contrat où je présente 2 émissions pour la Web TV par semaine. Donc c'était une obligation, une nécessité, pour pas dire demain à l'équipe TV, je peux pas travailler, parce que, ou alors vous me salariez. Et aujourd'hui, être salarié d'une entreprise, on sait que c'est difficile par rapport aux différentes charges sociales, patronales, etc.
D'accord. Et vous avez des salariés dans cette entreprise, c'est aux productions, vous êtes tout seul, indépendant, et de temps à autre.
C'est-à-dire, comme je le dis, Philippe, c'est compliqué quand on me demande de faire une présentation, une animation, de se dupliquer. En revanche, oui, je viens justement d'en d'embaucher un contrat de qualification, parce que je crois vraiment à cela. Je crois vraiment à cela. Je viens d'embaucher un jeune, donc qui va faire des cours avec le centre de formation et de perfectionnement des journalistes et qui va découvrir le métier. Et puis je suis également directeur des Amis des Barbarians, ouais, à Paris, qui est un club entre guillemets de patrons, qui est un formidable club de rencontres et d'échanges, où là j'ai également deux jeunes qui travaillent avec moi. Moi je suis vraiment entouré de jeunes. Mais au-delà du fait générationnel, de gens qui y croient, qui c'est l'enthousiasme avant toute chose. Et je crois beaucoup à cela.
Justement, ce club des Barbarians, c'était un club de décideurs, en quelque sorte, non? Un réseau d'influence, non?
Alors, c'est pas un réseau d'influence. Non. Oui, en partie, c'est un club de décideurs. Vous avez raison, Philippe. Tout simplement, en septembre 2007, il y a une Coupe du Monde de rugby en France. Et il se trouve que les patrons comme monsieur Bébéard, le président fondateur du groupe AXA, monsieur Lachmann, à l'époque PDG de Schneider Electric, monsieur Kampf, PDG de Capgemini et aujourd'hui président du conseil de surveillance, monsieur Fourtou, le président du conseil de surveillance de Vivendi, Guy Savoy par exemple, ont décidé de monter une association, les Amis des Barbarians, qui viennent refléter la sympathie, la fraternité, les valeurs de solidarité du monde du rugby, qui est un monde exceptionnel. Et donc 15 membres fondateurs, je rajoute à cela Jean-François Lamour, Bernard Laporte, Jean-Pierre Yves, Serge Blanco, Luc-François Salvador, Philippe Donnet, ont décidé de monter ce club pour pouvoir en faire profiter leurs amis. Mais leurs amis, c'est vous, c'est moi, c'est le jardinier, c'est peut-être quelqu'un au chômage. La seule chose, c'est qu'il faut aimer le rugby, il faut aimer ne pas se prendre la tête, ça c'est pas le plus facile. Et puis il faut simplement venir participer. Alors on est coopté, c'est comme un pub anglais, on est situé en plein cœur de Paris, avenue Hoche, c'est comme un pub anglais, on fait une demande de cooptation validée par les membres fondateurs avec un ticket d'entrée de 1 000 € et 500 € de cotisation annuelle qui vous donne le droit entre midi et minuit de venir déjeuner, dîner, faire vos RP, vos comités de direction, vos conférences de presse, assister aux matchs de rugby, destination, de la Coupe du Monde, des JO, etc., etc. Et ça fonctionne très très bien puisqu'aujourd'hui on est 380 membres.
D'accord. Ça se réunit souvent?
Il est ouvert tous les jours, de midi à minuit. On peut faire aussi des petits déjeuners. Et on a une soirée récurrente le premier mercredi du mois qu'on appelle la soirée des fondateurs. On en a eu une le mercredi dernier où il y avait plus de 120 personnes. Et on essaie de thématiser. Donc là, ce sont nos amis de des Trois-Vallées qui sont montés, c'est le cas de le dire, de la Tania, pour venir nous faire part de leur spécialité. Et c'était vraiment exceptionnel. C'est vraiment on peut pas dire que ce soit un club d'influence. Il y a beaucoup de gens influents qui y viennent. Mais les gens, une fois qu'ils ont passé le rideau, sont des gens comme vous et moi.
D'accord. Alors, il y a le journaliste, Carl Olive, il y a le chef d'entreprise, et puis il y a l'homme politique maintenant. Pourquoi la politique ?
D'abord, pour reprendre l'expression étymologique du terme, hein, politique, la vie de la cité. Moi, j'ai toujours été animé par la vie de ma cité, de mes quartiers. Je suis né dans, je le disais au début de cette émission, et merci de m'avoir posé la question, Philippe, avec une famille populaire, et en tout cas une famille nombreuse, avec vraiment des valeurs de solidarité sociale. Mes parents, ma maman est orpheline, mon père a travaillé toute sa carrière à Peugeot-Poissy, donc forcément, ça forge aussi un caractère. Et j'ai toujours été intéressé par ce que faisaient mes copains d'à côté. Alors, j'ai grandi au quartier de la Coudraye, habité sur le quartier de Borgard, et puis j'étais toujours intéressé par l'association. Puis quand vous êtes jeune journaliste, quand vous avez 17 ans, moi j'ai commencé, j'avais 17 ans avec le groupe Paris-Normandie à Paris-Poissy, vous êtes conseil municipal. Donc, et puis ensuite, à l'époque, plus maintenant, mais à l'époque, le conseil municipal se réunissait, allait manger ensemble, il invitait les journalistes, donc on se retrouvait tous ensemble. Et puis ça donne un petit peu des idées. Puis j'ai été président d'un club de foot à Poissy, j'ai été président d'un festival de musique à Poissy, j'ai grandi dans un relais international de la jeunesse à Poissy. J'ai toujours été intéressé. Et c'est vrai que, encore une fois, j'aime le contact, j'aime les gens, donc je rencontre beaucoup de monde. Au fur et à mesure, vous connaissez beaucoup de monde, vous essayez d'aider le monde, puis la politique est entrée comme cela. Et aujourd'hui, je pense que ma troisième vie, si Dieu me prête vie, ce sera la politique.
Oui, c'est une question que j'allais poser. C'est envisageable un jour, Carl Olive, conseiller régional, ou pourquoi pas comme David Douillet, député?
D'abord, j'ai une pensée à David parce qu'on a travaillé ensemble et au service des sports de Canal+, et on est très amis. Je l'ai accompagné pendant sa campagne électorale et législative, et en vous quittant, je l'accompagne au journal de France 2. Parce qu'on va travailler ensemble, et je pense que je prendrai des responsabilités qu'il m'a proposées au sein du mouvement de l'UMP d'ici quelques semaines. Oui, ça m'intéresse, et effectivement, comme je le dis, quand on est compétiteur, quand on a été élevé sportivement comme peut l'être David Douillet, ce qui nous intéresse, c'est la victoire. Mais pour aller à la victoire, on sait qu'il y a des moyens de se donner, en tout cas, il faut se donner les moyens de la victoire, c'est l'organisation, la rigueur. C'est comme pour moi, la politique, c'est comme un champion. Enfin, je veux dire, on claque pas des doigts et on devient pas politicien du jour au lendemain. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail d'organisation, de mise en place de commissions. C'est ce que j'ai fait avec mon association Cœur de Poissy depuis un an. Et petit à petit, voilà, l'oiseau fait son nid, il faut pas brûler les étapes. Donc je me suis présenté à la cantonale partielle de Poissy Sud où j'ai eu la chance de
pas grand chose.
Sans étiquette et voilà. Et je me suis qualifié au premier tour en terminant deuxième devant le PS, devant le Modem, devant le PC, devant le Nouveau Centre. J'ai perdu de 180 voix, mais j'ai été majoritaire à Poissy. Donc forcément, ça donne envie de continuer. Et puis ça signifie aussi, Philippe, que dans l'approche qui est la mienne, mais je ne suis pas un exemple par rapport à cela, dans l'approche des pratiques politiques et des nouvelles manières, de la nouvelle manière de faire de la politique, je pense que ça paie. C'est aujourd'hui, on ne peut plus faire croire, de donner du miroir aux alouettes, aux gens qu'on rencontre. On ne peut pas faire des promesses. Il faut leur dire oui, c'est possible et voilà pourquoi ça va être possible, et non, c'est pas possible, vous pouvez me demander ce que vous voulez, mais ça, c'est pas possible. Et les gens sont réceptifs par rapport à ça, et c'est comme ça qu'on va aller les faire voter. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même un gros fléau, c'est le taux d'abstention. On l'a encore vu sur les dernières élections législatives, alors qu'on avait un gros poisson, c'est le cas de le dire, qui était David Douillet. Il y a encore eu un taux d'abstention pas record, mais pas loin. Et on l'a vu également sur les cantonales de Poissy Sud, où là, ça a été un fiasco complet, faut quand même le dire. Mais comme dans le sport, le terrain est le même pour tout le monde et la météo est la même pour tout le monde.
Alors, est-ce que c'était mieux que quand même plus faire play que le sport ou moins faire play? Parce que tous les coups sont permis en politique, ce qui n'est pas le cas tout le grand sport.
Je découvre que dans le milieu du sport, il y a des tacles parfois qui sont faits, comme on le dit, au niveau des oreilles, qu'il vaut mieux avoir des protège-tibias. Je trouve qu'en politique, c'est parfois encore pire.
Ah ouais.
Voilà. Donc effectivement, il vaut mieux être bien armé, il faut avoir une belle carcasse. Sinon, je pense que c'est compliqué à moyen terme.
Et puis le fait de ne pas être dans les appareils, on doit déranger quelque part.
Ah bah
c'est
si.
Un coup de pied dans la fourmilière quand même.
Ah ça c'est clair, ouais.
Ah ouais.
Ça c'est clair. Maintenant attention, hein, il faut avoir du respect par rapport au grand parti. Enfin moi j'ai beaucoup de respect pour ces partis de gauche comme de droite. J'ai beaucoup de respect pour la personne qui a des convictions et qui est face à ses opinions.
Même si c'est pas les vôtres.
Bien sûr, même si c'est pas les mêmes. J'ai de nombreux amis au parti socialiste, bien
sport,
sûr.
Oui.
Et dans le sport, il n'y a pas de frontière politique. En revanche, je respecte beaucoup plus quelqu'un qui me dit, moi je suis pas d'accord avec toi, voilà pourquoi je ne suis pas d'accord avec toi, plutôt que de faire l'anguille, type le Modem, pour pas les citer, hein, pour pas faire de langue de bois, par exemple. Voilà. Un jour, je flirte à gauche, le lendemain, je flirte à droite. Comme je le dis, la meilleure place du Modem, c'est au bal. C'est le seul endroit où on peut changer de partenaire après chaque danse.
Mmh. Journaliste et homme politique, c'est compatible? Parce qu'on ne peut pas être au-dessus de la mêlée et dedans, quoi.
C'est encore une belle question, Philippe. Hein.
Ouais.
Bravo. Non, je pense qu'à moyen terme, c'est plus compliqué. C'est pour ça que je le dis. Moi, j'ai une première vie de journaliste. J'en ai une seconde de producteur. Ma troisième vie, je pense qu'elle sera pleinement dédiée
à la vie
politique. Ouais. Alors, pas seulement parce que c'est compatible ou pas. On a vu des journalistes qui réussissaient, comme Noël Mamère, Monsieur Mamère, qui réussit parfaitement dans les convictions qui sont les siennes et ça fonctionne plutôt bien. C'est simplement que, pour moi, la politique, c'est un vrai métier, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, on se réveille plus en disant, tiens, demain, ça me dirait d'être maire d'une commune ou d'un petit village. Même d'un petit village, je veux dire, le maire, c'est un exercice à plein temps. Et aujourd'hui, quand les concitoyens veulent rencontrer le maire, on peut pas lui dire, bah non, monsieur le maire, il est parti parce qu'il est médecin ou parce qu'il est chef d'entreprise ou parce qu'il est journaliste. Ça marche plus. Pour moi, maire d'une commune, alors qui plus est, moi c'est sur Poissy, il y a 40 000 habitants, c'est un métier à plein temps. Il faut pas tortiller avec ça, faut pas donner encore une fois des promesses qu'on sait pas tenir au.
Okay. D'accord, donc vous allez vous investir dans les régionales?
Je vais m'investir
dans deux ans, je vais m'investir
dans les régionales aux côtés de David Douillet. Mmh. Donc, à l'heure où on se parle, je suis toujours pas étiqueté, hein. Mais bon,
oui,
ça serait tardé. Je vais m'investir aux côtés de David Douillet.
Donc,
puis,
là, je vous coupe. Là, vous allez rentrer dans un camp, alors.
Là, je vais rentrer dans un camp. Et je rentre dans un camp parce que, pour la première fois, David Douillet m'a demandé de le faire.
D'accord.
Jamais avant.
C'est par amitié à David?
C'est pas par amitié, c'est par la faculté de David quand il a été promu à la fois à la candidature pour la législative, de montrer qu'il a une nouvelle approche de la politique et qu'il était tranché, y compris par des idées fixes, on va dire, de l'UMP local, par exemple. Je prends le cas du circuit de Formule 1 où David Douillet est arrivé. Et comme nous l'avions fait au cantonal, a dit, moi je ne suis pas d'accord pour un circuit de Formule 1, oui au développement de la vallée automobile dans le Valais de Seine, mais pas la Formule 1. Et moi je suis bien placé aussi pour le savoir, en sachant que les audiences de Formule 1 ont plongé complètement, que les données environnementales n'étaient pas totalement respectées, c'est pour cette raison que le circuit a été abandonné, même si au départ c'était pas forcément une mauvaise idée, ça a été clair. Donc David Douillet a tranché par rapport à cela, et il a tranché également sur le circuit de la 104, pardon, sur le tracé de la 104, cette autoroute francilienne, sur le bouclage de la francilienne, et ça c'était des convictions très fortes de l'UMP départemental, l'UMP local. C'est ça qui m'a plu dans la faculté de David Douillet, UMP, qui allait à l'encontre des idées qui n'étaient pas celles de la population, du mouvement politique en question. C'est pour cette raison que j'ai décidé de m'investir à ses côtés, parce qu'il me l'a demandé, et c'est le premier homme politique qui me dit « prends ta carte à l'UMP, il faut que tu sois légitime par rapport à ça ». Mais c'est d'abord parce que David Douillet a montré le cheminement qui était le sien, la manière et l'approche qui était la sienne, que je rejoins David pour essayer effectivement de faire des petits par rapport à cela, et effectivement de prendre des choses en main dans de nouvelles idées et de nouvelles approches politiques plutôt que tout le reste.
Justement, tous ces sportifs de haut niveau qui entrent en politique, c'est une bonne chose, Karl. Ils ont un regard un peu différent extérieur.
Moi, je dirais qu'il ne faut pas sectariser ça au monde des champions sportifs, comme on le disait tout à l'heure par rapport aux journalistes. Je pense que c'est la compétence qui doit parler et l'envie. C'est-à-dire demain, vous voulez faire de la politique, vous avez des idées, vous avez des convictions qui sont très fortes et vous êtes force de proposition, vous avez largement la place dans le circuit politique. Maintenant, je crois pas que, en revanche, ce que j'allais dire, c'est que je ne crois pas qu'il faille simplement réduire au fait de la simple population, t'es journaliste, t'es champion sportif, t'es boucher, t'es boulanger, donc il reste à ta place, etc. Non, il faut pas tomber dans ce travers-là. Toutes les bonnes idées sont bonnes, après faut les mettre en place, il faut y croire surtout. Et puis ensuite, il faut faire des choix. Il faut prendre ses responsabilités, comme l'on dit. Si effectivement la politique doit prendre beaucoup de temps, etc., il faut essayer d'en faire son métier.
Alors vous avez un blog aussi, sur lequel vous parlez justement de toutes vos différentes activités.
Alors j'ai plusieurs blogs, ouais. J'ai le site de ma boîte de production, donc koproduction.fr, comme ça se prononce sans S. J'ai le blog perso qui est un petit peu un petit amusement, c'est la coiffe totale, qui est carlolive.fr. Et puis j'ai le blog qui là est plus sérieux politiquement, de mon association qui s'appelle Cœur de Poissy, donc c'est cœurdepoissy.com, où là effectivement nous faisons part, parce que je suis pas tout seul, on est une soixantaine dans l'association. Et on est organisé en commission, donc on est vraiment organisé, une association de cadre de vie, où on fait part de nos convictions. Et alors peut-être à la différence d'autres blogs, entre guillemets, qui se veulent politiques, où on n'est pas là pour, dans le tout-destruction. C'est-à-dire que, bon, vous l'aurez compris, je ne suis pas de gauche, mais il y a des choses que la ville de Monsieur Bernard à Poissy fait, maire PS, qui sont bien, il faut le dire. Il y a un parking gratuit qui a été ouvert derrière la mairie, qui n'avait pas été fait auparavant, ça c'est bien. Il y a un marché qui a été ouvert dans les quartiers, ça c'est bien, il faut le dire. En revanche, aller nous mettre une crèche ouverte simplement aux titulaires du RSA, je pense que c'est pas une bonne idée. Voilà.
Alors on va donc, Karl, aussi parler de vos différentes activités associatives. Vous avez dit, vous avez été président de Château Foot et Omnisport.
Exactement. Ouais, je vois que vous êtes bien renseigné, Philippe. Hein. Oui, j'ai commencé à Château. C'était aussi une belle aventure familiale. C'est-à-dire qu'il y avait 500 licenciés au club. La Château Football, à l'époque, avec un homme remarquable qui habite d'ailleurs à Deux, qui est Jean-Claude Fruoff, qui était manager général et qui m'a proposé un jour, j'étais capitaine de l'équipe, d'aller un peu plus loin. Dans ma fonction, c'est lui qui m'a donné le goût en fait et qui m'a permis de devenir président de l'AS Château, et je lui dois une fière chandelle. Et ensuite je suis devenu président de l'AS Château Omnisport. Donc il y avait 5 sections, ça représentait 2000 personnes, mais surtout c'était, comme je vous le disais Philippe, c'était vraiment une aventure familiale, c'est-à-dire que quand on décidait de faire la fête du foot et de l'amitié, je pouvais compter sur mes 100 dirigeants. Du jour au lendemain, c'était très actif, un petit peu moins compétitif. Quand on faisait un tournoi, on décidait de faire un tournoi avec la fondation du Paris Saint-Germain, il fallait claquer des doigts et l'enthousiasme était là et tout suivait. Ça, c'était fabuleux. Et ça n'a pas de prix. Quand on voit aujourd'hui la faillite des bénévoles en France et des dirigeants, ça n'avait pas de prix parce que tout le monde suivait. Et puis derrière, j'ai eu besoin quand même du goût de la compétition et de la rigueur. C'est un peu plus de rigueur, on va dire. Et c'est ce qui m'a fait aller à Poissy en CF. On était en 8e division avec Château, division supérieure régionale, et ensuite on est passé en CFA. Bon, là on est dans un statut de semi-professionnel.
Oui, alors Château, tout le monde sait, vous avez fait venir mon Basilou, Basile Poli.
Ouais, Basile, ouais. Basile, en fait, c'est encore une belle aventure. Alors Basile, comment on se connaît avec Basile? On se retrouve sur un terrain de foot à jouer. Alors lui dans une équipe d'artistes dont il a le secret, moi avec une équipe de copains de journalistes, et puis on lit d'amitié parce que on est toujours en train de se marrer, il faut quand même dire les choses. Hein. Comme je le dis, hein, il faut 6 muscles pour sourire, 42 pour faire la tête. Donc moi, je pars du principe qu'il vaut mieux se marrer une bonne partie de la journée. Et Basile est pareil. Puis forcément, comme avec José Touré, ça s'est très bien passé. Et un jour, Basile me dit, tiens, de temps en temps, j'habite Neuilly, le soir, je vais courir, voilà, je vais taper le ballon et tout. Mais je dis, au lieu de le ballon dans les bois du côté de Neuilly, vient plutôt à Chatou. Puis comme voilà, Neuilly-Chatou, c'est à côté, il est venu une fois l'entraînement, deux fois l'entraînement, ça lui a plu. J'y attends, Basile, bah, viens, prends une liste. Puis en plus, on va se marrer parce que on a besoin de faire savoir qu'à Chatou, c'est aussi un beau club. Et c'est forcément, si t'es là, ça va le faire. Et puis, bah, c'est ce qu'il a fait. Il a pris une licence. Et Basile Boli, voilà, a connu une grosse saison de footballeur retraité, ancien Chatou. C'était en 2006, c'était vraiment formidable. Et c'est un mec, Basile, c'est un mec fabuleux. C'est un mec fabuleux, c'est un mec qui ne se contrôle pas, qui est capable de faire des conneries grosses comme lui. On l'a encore vu récemment.
Oui, j'allais poser la question, justement, c'est des boires. Actuel.
Bah les déboires, il a été, j'ai vu qu'il avait été mis en garde à vue, ouais, pendant 24 heures sur des histoires de grosses sommes, etc. Alors j'en sais pas plus. Ce que je sais, c'est que je l'ai vu 2 heures ou 3 heures après la sortie de sa garde à vue, et il était comme on le voit au sortir du centre de formation d'Auxerre. Je crois qu'il s'est pas bien rendu compte que peut-être qu'il avait fait quelque chose qui était pas bien. Jusqu'à preuve du contraire, il est toujours parmi nous, et il y a quand même une grosse présomption d'innocence.
Alors, vous l'avez dit, vous êtes parti à Poissy, vous en êtes parti pour des raisons politiques.
Non, j'en suis pas parti pour des... Philippe, j'en suis pas parti pour des raisons politiques, j'en suis parti par acte de fidélité. Voilà, et comme je le dis, moi je suis un mec droit, parce que j'ai été éduqué comme ça, et je crois à ces valeurs-là. Je vous explique. En 2004, lorsque j'ai pris le club parce que le directeur des sports de la ville à l'époque, monsieur Philippe Gros, m'a demandé de venir au club. Et j'ai eu le soutien plein et entier de la ville, mais pas pécunier, de l'ancien député maire. Mais l'ancien député maire m'a dit, si tu viens au club, voilà, je connais tes compétences, tu ne seras pas ennuyé. Si tu as besoin de créneaux supplémentaires pour le stade, si tu veux faire des opérations citoyennes, tu feras tout ce que tu voudras. Et ça a été le cas. Et ça a été le cas jusqu'en 2008. Et puis, lorsqu'il a été battu, je ne me voyais pas être le principal opposant du nouveau maire socialiste Frédéric Bernard, qui, par son entourage, m'a demandé de rester et conduire la plus grosse association de la ville, ce qui était le cas. Je me voyais pas du tout. L'histoire a jugé que j'étais dans le vrai, puisque ça s'est pas bien passé avec les successeurs. Et aujourd'hui, j'ai fait un acte de fidélité. Voilà. Et quand je me regarde dans la glace, je suis content d'avoir fait cet acte de fidélité. Un acte intellectuel très facile à prendre. Ça m'a pris 30 secondes. Hein. Mais par contre, humainement, très compliqué, parce qu'effectivement, il y a une cinquantaine de dirigeants à qui il a fallu expliquer que ça allait être très compliqué pour moi, mais surtout, voilà, pour nous tous, dans l'actuel des choses, et qu'il valait mieux que je laisse ma place, parce qu'effectivement, j'étais décidé à ce moment-là, ça a été un peu le déclic, de faire autre chose et de consacrer peut-être plus de temps, peut-être à la vie de la cité, qu'aux associations sportives. Et puis là, j'ai été contacté au printemps dernier pour reprendre le club de l'AS Poissy que j'avais quitté, parce qu'effectivement, j'ai des partenaires, tout le monde le sait, j'étais prêt à le faire. Mes engagements politiques et la réussite, entre guillemets, qui s'en est allée, et puis derrière, l'accompagnement auprès de David Douillet, font qu'aujourd'hui, décemment, je n'en aurai pas le temps. Alors, je m'étais engagé à trouver un partenaire, ce que j'ai fait, Thierry Gomez, ancien président de 3, Ligue 2, quand même pas rien, très identifié, avec l'envie. Je suis pas sûr que c'est tout le monde, et c'est bien dommage, parce que c'était la personne, pour moi, idoine, pour venir conduire les affaires de l'AS Poissy Football.
Aujourd'hui, vous êtes quand même CBB, président délégué ou président Vincent Guérin ?
Alors, j'ai fait venir Vincent Guérin à la CBB. Ouais. Bon, c'était le cas l'an passé, Philippe, parce que à la CBB, très naturellement, on s'est mis d'accord pour que l'aventure ne soit figée dans le temps. Et il n'était pas question que j'aille prendre la place de qui que ce soit à la CBB. Donc voilà, j'ai un œil bienveillant. Je suis supporter de la CBB. Je regarde toujours le résultat. J'ai toujours des contacts avec les joueurs. Mais voilà, je donne un coup de main le cas échéant quand on me le demande, mais ça va pas plus loin.
Et donc si on se rapproche du Parc des Princes.
Et Vincent Guérin. Oui, et oui. À Boulogne-Billancourt, oui. Donc il est juste à côté.
Bien sûr. Vous avez été arbitre, vous l'avez dit. Ça vous a beaucoup aidé, ça vous a beaucoup apporté cette période d'arbitrage ?
Ah, complètement. J'ai été arbitre à partir du moment où je me suis rendu compte que lorsque j'étais au Paris Saint-Germain en cadets nationaux, ma carrière dans le football n'irait pas très très loin. Quoi. Ouais. Bon, j'ai été en équipe de France Corpo. Ouais. Et moi, ce que je voulais, c'était comme tout le monde, être footballeur professionnel. Dès lors que j'ai...
C'est pour ça que t'es journaliste sportif.
Mais dès lors que je sais pas, c'est pas faux. Dès lors que j'ai compris que ça allait être compliqué pour moi, j'adore le ballon. Mm-hmm. Voilà, je me suis dit, être arbitre, c'est aussi une manière d'apporter sa pierre. Et je suis devenu arbitre de la fédération. Et ça s'est très très bien passé, puisque j'étais notamment juge de touche en 3e division à l'époque. Mais pour être arbitre, à l'époque, il fallait une acuité visuelle minimale de 7 sur 10. Moi, j'étais à moins 2. Donc, à l'époque, les opérations laser que j'ai faites, moi, plus tard, des deux yeux, pour corriger la myopie, n'étaient pas autorisées. Et j'ai quitté le football de haute compétition, parce que j'avais compris que je n'irais pas plus haut. J'ai quitté l'arbitrage du jour où j'ai compris que je ne pourrais pas être parmi les meilleurs. Et moi, j'ai toujours l'idée de compétiteur, et voilà, je n'allais pas faire de l'arbitrage pour faire du loisir.
Ouais, c'est pour se faire insulter tous les dimanches.
Ça, c'est autre chose.
C'est pas du
Ouais. Après, il y a se faire insulter, quoi. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir, et ça m'a aidé. Parce que quand je suis devenu directeur de la rédaction de Canal, j'ai vraiment contribué à embaucher des consultants arbitres grâce à Michel Denisot et Gilles Vessière. Aujourd'hui, c'était à la mode, à l'époque, ça ne l'était pas. Ouais. Gilles Vessière et Joël Quignoux sont arrivés comme cela. Et puis surtout, derrière, je donnais un bouquin sur les lois du jeu à tous mes journalistes. Voilà. Donc un jour de foot, quand il y avait, qui est l'émission phare de Canal le samedi soir, comme vous le savez, quand il y avait un souci au niveau du jeu, hop, on prenait son bouquin. Alors le bouquin, on s'en servait deux fois par an. Mais deux fois par an, quand vous avez les bonnes réponses aux mauvaises questions, ben vous faites la diff.
Un petit mot aussi, vous êtes un adepte de la course à pied. Hein.
Oui, j'adore la course à pied.
Ouais.
Bah, comme je le disais tout à l'heure, Philippe, moi j'ai la chance d'habiter de Poissy, qui est une formidable région, avec un golf où on peut courir autour du golf, avec la terrasse de Saint-Germain qui est super sympa. Et puis il y a aussi un complexe qui est les pyramides du Port-Marly, où je vais quasiment m'entraîner tous les jours. Alors je fais des cours de fit bike, comme on dit, c'est du vélo en salle avec prof et de la musique rythmée, etc., rétropédalage, mais également de la course à pied où je vais courir sur la terrasse de Saint-Germain qui a été dessinée par Monsieur Lenôtre, où je vais courir en forêt domaniale. Mensalen corpore sano, j'essaye.
Très bien. Allez, c'est le générique de sport et puis on va ensuite avoir le générique de la 100e Carl de Tribune.
Bonne matinée.